Chapitre 17. Une fois sur l'autre rive de la Sambre, on mit les armes en faisceau dans un verger, et chacun put allumer sa pipe et respirer, en regardant les hussards, les chasseurs, l'artillerie et l'infanterie défiler d'heure en heure sur le pont et prendre position dans la plaine. Sur notre front se trouvait une forêt de hêtres. Elle s'étendait du côté de Fleurus, et pouvait avoir 3 lieues d'un bout à l'autre. On voyait à l'intérieur de grandes places jaunes. C'étaient des chaumes, et même des carrés de blé, au lieu de ronces, de genêts et de bruyères, comme chez nous. Une 20aine de maisons, vieilles et décrépites, dépassaient le pont, car le Châtelet est un village très grand, plus grand que la ville de Saverne. Entre les bataillons et les escadrons, qui défilaient toujours, arrivaient des femmes, des hommes, des enfants, avec des cruches de bière vineuse, du pain et de l'eau-de-vie blanche, très forte, qu'ils nous vendaient, moyennant quelques sous. Bûche et moi nous cassâmes une croûte en regardant ces choses, et même en riant avec les filles, qui sont blondes et très jolies dans ce pays. Tout proche de nous se découvrait le petit village de Catelineau, et, sur notre gauche, bien loin, entre le bois et la rivière, le village de Gilly. La fusillade, les coups de canon et les feux de peloton roulaient toujours dans cette direction. La nouvelle arriva bientôt que les Prussiens, repoussés de Charleroi par l'empereur, s'étaient mis en carré au coin de la forêt. De minute en minute, on s'attendait à marcher pour leur couper la retraite. Mais entre 7 et 8 heures, la fusillade cessa. Les Prussiens s'étaient retirés sur Fleurus après avoir perdu l'un de leurs carrés. Le reste s'était sauvé dans le bois, et nous vîmes arriver 2 régiments de dragons. Ils prirent position à notre droite, le long de la Sambre. Le bruit courut quelques instants après que le général Le Thor, de la garde, venait de recevoir une balle dans le ventre, à l'endroit même où, dans sa jeunesse, il menait paître le bétail d'un fermier. Que de choses étonnantes on voit dans la vie! Ce général avait combattu partout en Europe depuis 20 ans, et c'est là que la mort l'attendait. Il pouvait être 8 heures du soir, et l'on pensait que nous resterions au Châtelet jusqu'après le défilé de nos 3 divisions. Un vieux paysan chauve, en blouse bleue et bonnet de coton, sec comme une chèvre, qui se trouvait avec nous, disait au capitaine Grégoire que de l'autre côté du bois, dans un fond, se trouvait le village de Fleurus, et celui de Lambuzard, plus petit et sur la droite, que depuis au moins 3 semaines, les Prussiens avaient des hommes dans ces villages, qu'il en était même arrivé d'autres la veille et l'avant-veille. Il nous disait aussi que le long d'une grande route blanche, bordée d'arbres, qu'on voyait filer tout droit à 2 bonnes lieues sur notre gauche, les Belges et les Hanovriens avaient des postes à Gosselies et aux 4 bras, que c'était la grande route de Bruxelles où les Anglais, les Hanovriens, les Belges avaient toutes leurs forces, tandis que les Prussiens, à 4 ou 5 lieues sur la droite, occupaient la route de Namur. Qu'entre eux et les Anglais, du plateau des 4 bras jusque sur le plateau de Ligny, en arrière de Fleurus, s'étendait une bonne chaussée, où leurs estafettes allaient et venaient du matin au soir, de sorte que les Anglais apprenaient toutes les nouvelles des Prussiens, et les Prussiens toutes celles des Anglais, qu'ils pouvaient ainsi se secourir les uns les autres, en s'envoyant des hommes, des canons et des munitions par cette chaussée. Naturellement, en entendant cela, l'idée me vint tout de suite que nous n'avions rien de mieux à faire que de prendre cette grande traverse pour les empêcher de céder. Cela vous tombait sous le bon sens. Et je n'étais pas le seul auquel cette idée venait. Mais on ne disait rien, dans la crainte d'interrompre ce vieux. Au bout de 5 minutes, la moitié du bataillon était en cercle autour de lui. Il fumait une pipe de terre et nous montrait toutes les positions avec son tuyau. Étant commissionnaire pour les paquets entre le Châtelet, Fleurus et Namur, il connaissait les moindres détails du pays et voyait journellement ce qui s'y passait. Il se plaignait beaucoup des Prussiens, disant que c'étaient des êtres fiers, insolents, dangereux pour les femmes, qu'on ne pouvait jamais les contenter, et que les officiers se vantaient de nous avoir ramenés depuis Dresde jusqu'à Paris, en nous faisant courir devant eux comme des lièvres. Voilà ce qui m'indigna. Je savais qu'ils avaient été 2 contre 1 à Leipzig, que les Russes, les Autrichiens, les Saxons, les Bavarois, les Württembergeois, les Suédois, toute l'Europe nous avait accablés, lorsque les 3/4 de notre armée étaient malades du typhus, du froid, de la faim, des marches et des contre-marches. ce qui ne nous avait pas encore empêchés de leur passer sur le ventre à Hanau, et de les battre 50 fois, 1 contre 3 en Champagne, en Alsace, dans les Vosges et partout. Ces ventrées des Prussiens me révoltaient. Je pris leur race en horreur, et je pensais. Ce sont pourtant des gueux pareils qui vous aigrissent le sang. Ce vieux disait aussi que les Prussiens répétaient sans cesse qu'ils allaient bientôt se réjouir à Paris, en buvant les bons vins de France, et que l'armée française n'était qu'une bande de brigands. En entendant cela, je m'écriai en moi-même. « Joseph, maintenant c'est trop fort. Tu n'auras plus de pitié. C'est l'extermination de l'extermination. » 9h30 sonnait au village du Châtelet. Les hussards sonnaient la retraite, et chacun s'arrangeait derrière une haie, derrière un rucher, ou dans un sillon pour dormir, lorsque le général de brigade, chauffeur, vint donner l'ordre au bataillon de se porter de l'autre côté du bois, en avant-garde. Je vis aussitôt que notre malheureux bataillon allait toujours être en avant-garde comme en 1813. C'est triste pour un régiment d'avoir de la réputation. Les hommes changent, mais le numéro reste. Le 6e léger avait un bien beau numéro, et je savais ce que cela coûte d'avoir un si beau numéro. Ceux d'entre nous qui avaient envie de dormir n'eurent pas longtemps sommeil, car lorsque l'on sait l'ennemi très proche et que l'on se dit « les Prussiens sont peut-être là, qui nous attendent embusqués dans ce bois », cela vous fait ouvrir l'œil. Quelques hussards, déployés en éclaireurs à droite et à gauche du chemin, précédaient la colonne. Nous marchions au pas ordinaire, nos capitaines dans l'intervalle des compagnies et le commandant Gémeaux à cheval, au milieu du bataillon, sur sa petite jument grise. Avant de partir, chaque homme avait reçu sa miche de 3 livres et 2 livres de riz. C'est ainsi que la campagne s'ouvrit pour nous. Il faisait un clair de lune magnifique. Tout le pays, et même la forêt, à 3/4 de lieue devant nous, brillait comme de l'argent. Malgré moi, je songeais au bois de Leipzig, où j'avais glissé dans un trou de terre glaise avec 2 hussards prussiens pendant que le pauvre Klipfel était taché plus loin en 1000 morceaux. Cette idée me rendait très attentif. Personne ne parlait. Buche lui-même dressait la tête en serrant les dents, et Zébédé, sur la gauche de la compagnie, ne regardait pas de mon côté, mais dans l'ombre des arbres, comme tout le monde. Il nous fallut près d'une heure pour arriver au bois. À 200 pas, on cria « Halt !» Les hussards se replièrent sur le flanc du bataillon. Une compagnie fut déployée en tirailleurs sous bois. On attendit environ 5 minutes. Et comme aucun bruit, aucun avertissement n'arrivait, on se remit en marche. Le chemin que nous suivions dans cette forêt était un chemin de charrette assez large. La colonne marquait le pas dans l'ombre. À chaque instant, de grandes places vides donnaient de l'air et de la lumière. On avait fait aussi quelques coupes, et le bois blanc, en stère entre 2 piquets, brillait de loin en loin. Du reste, rien ne s'entendait, ni ne se voyait. Buche me disait tout bas. J'aime pourtant sentir l'odeur du bois. C'est comme au Harberg. Et je pensais. Je me moque bien de l'odeur du bois, pourvu que nous ne recevions pas de coups de fusil. Voilà le principal. Enfin, au bout de 2 heures, la lumière reparut au fond du taillis, et nous arrivâmes, heureusement, de l'autre côté, sans avoir rien rencontré. Les hussards qui nous suivaient repartirent aussitôt, et le bataillon mit l'arme au pied. Nous étions dans un pays de blé, comme j'en ai jamais vu de pareil. Ces blés étaient en fleurs, encore un peu verts. Les orges étaient déjà presque mûres. Cela s'étendait à perte de vue. Nous regardions tous, au milieu du plus grand silence. Et je vis alors que le vieux ne nous avait pas trompés, car au fond d'une espèce de creux, à 2000 pas en avant de nous, et derrière un petit renflement, s'élevait la pointe d'un vieux clocher et quelques pignons couverts d'ardoises où donnait la lune. Ce devait être Fleurus. Plus proche de nous, sur notre droite, se découvraient des chaumières, quelques maisons et un autre clocher. C'était sans doute l'Embusard. Mais beaucoup plus loin, au bout de cette grande plaine, à plus d'une lieue et derrière Fleurus, le terrain se renflait en collines, et ces collines brillaient de feux innombrables. On reconnaissait très bien 3 gros villages qui s'étendaient sur ces hauteurs de gauche à droite et que nous avons su depuis être Saint-Armand, le plus proche de nous, Ligny au milieu, et plus loin, à 2 bonnes lieues au moins, Sombreffe. cela se voyait mieux qu'en plein jour, à cause des feux de l'ennemi. L'armée des Prussiens se trouvait là, dans les maisons, dans les vergers, dans les champs. Et derrière ces trois villages en ligne, s'en découvrait encore un autre plus haut et plus loin, sur la gauche, où des feux brillaient aussi. C'était celui de Brie, où les gueux devaient avoir leurs réserves. Tout cela, je le comprenais très bien. Et même, je voyais que ce serait très difficile à prendre. Enfin, nous regardions ce spectacle grandiose. Dans la plaine, sur notre gauche, brillaient aussi des feux. Mais il était clair que c'était ceux du troisième corps, qui, vers 8 heures, avaient tourné le coin de la forêt après avoir repoussé les Prussiens, et qui s'étaient arrêtés dans quelques villages encore bien loin de Fleurus. Quelques feux le long du bois, sur la même ligne que nous, étaient aussi de notre armée. Je crois me rappeler que nous en avions des deux côtés, mais je n'en suis pas sûr. Bon, la grande masse, dans tous les cas, était à gauche. On posa tout de suite des sentinelles aux environs, après quoi chacun se coucha sur la lisière du bois sans allumer de feu, en attendant les nouveaux ordres. Le général Schoeffer vint encore cette même nuit, avec des officiers de hussards. Le commandant Gémeaux veillait sous les armes. Ils causèrent tout haut, à 20 pas de nous. Le général disait que notre corps d'armée continuait à défiler, mais qu'il était bien en retard, qu'il ne serait pas même au complet le lendemain. Et j'ai vu par la suite qu'il avait raison, puisque notre 4e bataillon, qui devait nous rejoindre au Châtelet, n'arriva que le lendemain de la bataille, lorsque nous étions presque tous exterminés dans ce gueux de Ligny, et qu'il nous restait plus seulement 400 hommes. Au lieu que, s'ils avaient été là, nous aurions donné ensemble, et qu'il aurait eu sa part de gloire. Comme j'avais été de garde la veille, je m'étendis tranquillement au pied d'un arbre, côte à côte avec Bûche, au milieu des camarades. Il pouvait être 1 heure du matin. C'était le jour de la terrible bataille de Ligny. La moitié de ceux qui dormaient là devaient laisser leurs os dans ces villages que nous voyions, et dans ces grandes plaines, si riches en grains de toutes sortes. Ils devaient aider à faire pousser les blés, les orges et les avoines pendant les siècles des siècles. S'ils l'avaient su, plus d'un n'aurait pas si bien dormi, car les hommes tiennent à leur existence, et ce serait une triste chose de penser. Aujourd'hui, je respire pour la dernière fois.